ma fille pour la mort. Elle est aussi c'est beau ici.
Les oreilles ne sont pas du tout sympathiques.
Bien que nous ne soyons pas encore tous présents et en particulier un des orateurs arrive, donc on va quand même commencer pour ne pas perdre de temps. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Beignet. Jean-Michel Beignet qui est professeur à l'université de Paris-Sorbonne, membre du CNRS en épistémologie appliquée. Il appartient aussi au comité d'éthique du CNRS et de l'INRA. Il est l'auteur de nombreux livres, dont « Demain, les postes humains », mais aussi d'autres livres, plutôt de philosophie politique, enfin, toute une série de livres. Je vous conseille vraiment de le lire. Il y en a plusieurs exemplaires qui sont là à disposition pour ceux qui voudraient... Pour ceux qui voudraient l'acheter, j'allais dire. Et le sous-titre... Le sous-titre, c'est « Le futur a-t-il encore besoin de nous ?» Alors, hier, nous avons eu une conférence, un débat avec Jean-Michel, qui a été très intéressant, sur la notion de responsabilité dans un monde où le futur nous échappe. Et donc là, il nous a vraiment aidé à réfléchir sur le concept même de responsabilité, qui est, selon lui, intrinsèquement lié à la nature humaine, à la finitude de la nature humaine, à sa vulnérabilité, à son inscription dans le temps, à cette volonté d'affirmer aussi une identité. Selon Jean-Michel, ce sont malheureusement des notions qui, dans un monde de plus en plus interconnecté, de plus en plus virtuel également, où nous définissons plus par nos relations que par ce que nous sommes en tant qu'être, dans un monde aussi où la technologie, où les technologies permettent de plus en plus d'espérer même d'allonger la vie de manière indéterminée, ou en tout cas de retarder fortement le vieillissement, eh bien, la notion de responsabilité elle-même est, si l'on veut, en péril. Et donc, toute la discussion que nous avons eue hier a été de voir ce que cela voulait dire, comment il se faisait que nous en arrivions là aujourd'hui, et ce que nous pouvions faire contre ce type d'évolution. Alors aujourd'hui, avec Pierre-François Dauquier qui vient d'arriver, nous allons, je dirais en quelque sorte, continuer ce débat, mais en l'ancrant directement dans la réalité des mondes virtuels, c'est le cas de le dire. Pierre-François Dauquier est un chercheur au Centre Perelman de philosophie du droit. Voilà. Bonjour Pierre-François. Il a en plus un avatar qui est Obdis Writer, qu'il va nous présenter. Et donc, Pierre-François, au Centre Perelman de philosophie du droit de l'ULB, est vraiment un des spécialistes qui réfléchit sur, entre autres, ces notions de responsabilité dans des mondes virtuels tels que Second Life ou d'autres mondes qui se développent aujourd'hui. Et donc, ce que nous allons faire ce matin, c'est d'abord avoir une présentation de Pierre-François, par rapport à ces problématiques et sur lequel, je dirais, Jean-Michel va rebondir et va, avec sa vision des choses, je vais dire, tenter de nous faire aller encore au plus loin, au plus profond de ces questions. Et puis nous aurons bien sûr un débat tous ensemble par rapport à ces questions. Voilà, Pierre-François est en train d'installer sa machine. J'espère que ça va marcher.
C'est du virtuel,
c'est presque du virtuel.
C'est la relation difficile entre le réel et le virtuel. Pour moi, ça marche, mais je ne sais pas.
Entre Apple et Facebook.
Je ne sais pas s'il faut... Non, là, ça, c'est pas ça. Je vais le rallumer, mais c'est ça.
On vous promet toujours que c'est plug and play, hein, mais...
Ouais.
Ça, c'est la publicité YouTube.
Dans mon appel, c'est plug.
Bon. Juste, dernier peut-être mention avant de commencer, mais...
Encore des signaux.
Voilà, super. Juste avant que tu commences, Pierre-François, juste pour vous signaler que donc, le mois prochain, on aura Bernard Ramanantsoa, qui est le patron de HEC, donc la Business School française, qui viendra nous parler de la responsabilité des business schools. Mais contrairement à ce que nous pensions au départ, il ne viendra que le samedi matin. Et donc nous commencerons à 9h30 plutôt qu'à 9h. Voilà, c'est juste un petit détail. Et pour votre information, il y a aussi un livre, non pas à disposition, mais en vente, de Bernard Ramanantsoa, qui ne va pas parler des business schools, mais de réinventer l'entreprise. C'est un livre qu'il a écrit récemment. Voilà. Maintenant, à toi, Pierre.
C'est toujours le 19 mars.
C'est toujours le 19 mars.
Bonjour à tous. Je vois que dans l'Assemblée, on fait presque publicité pour Apple. Je suis absolument désolé de mon retard. Petite confusion.
De lieu
mon avatar est habitué à pouvoir se téléporter instantanément d'un endroit à l'autre. Malheureusement, la taxiportation va un peu moins vite que la téléportation. Puisque Laurent a annoncé que c'était mon avatar qui faisait l'exposé d'aujourd'hui, je suis bien obligé de commencer par faire les présentations. Optis Writer est apparu dans Second Life, disons, de mémoire, à l'été 2007, quand le centre Perelman a commencé un programme de recherche sous l'intuition de Benoît Friedman, programme de recherche qu'on a appelé « Droit et gouvernance dans les mondes virtuels ». Ce programme s'est d'abord déroulé sous forme de séminaire interne entre nous, donc les chercheurs, philosophes et juristes de notre équipe, a pris ensuite la forme d'une expérience d'enseignement, dont j'aurai peut-être l'occasion de vous dire quelques mots tout à l'heure, parce que c'était une forme d'enseignement non seulement sur l'objet monde virtuel, mais qui empruntait aussi la technologie. Et donc on a tenu des cours et des séminaires dans Second Life, ce qui était assez amusant. Et ça s'est poursuivi par des publications. Ce que je vais vous exposer aujourd'hui est essentiellement une sorte de premier compte-rendu de ce programme. Si vous en voulez un document écrit, ça a été publié dans la revue du droit des technologies de l'information, le numéro 40 de septembre 2010, et c'est par ailleurs, les deux textes en tout cas que j'ai signés dans ce dossier consacré aux univers virtuels sont disponibles sur le site du Centre Perelman ou sur mon site personnel, opiniondissidente.org. L'opinion dissidente, c'est de là qu'est venu le prénom de Opdis Writer, Opdis étant l'abréviation de opinion dissidente dans le jargon un peu particulier des notes de bas de page des juristes. Alors, le petit voyage que je vous propose, et la plupart des illustrations que vous allez voir sur mes slides sont tirées de Second Life, petit voyage en trois étapes. Je vais commencer par vous expliquer un peu ce que sont les mondes virtuels tels que nous les avons analysés, et j'aborderai ensuite la question de la responsabilité, pas tellement sous l'angle du droit, mais plutôt sous l'angle de la liberté d'une personne de se déplacer, d'agir, d'interagir dans un univers virtuel. Et je le ferai sous deux angles, ce que j'ai appelé l'état féodal. La féodalité est l'image qu'on prend beaucoup aujourd'hui dans la doctrine pour décrire l'évolution des logiciels de monde virtuel. Et puis je dirai quelques mots ensuite de ce qu'on pourrait peut-être appeler la responsabilité de l'avatar. C'est cette espèce de personnage relativement comique qu'on ne prend pas spécialement au sérieux, en fait pourrait, je le dirai tout à l'heure, devenir peut-être une nouvelle forme de personnalité juridique, de la même manière qu'on a créé des choses tout à fait fictives que sont les personnes morales. Bien, peut-être qu'un avatar pourrait devenir ce que certains auteurs américains ont appelé des corpatars, hein, corporation avatar, et donc être le siège d'une responsabilité juridique propre. Les univers virtuels, trois caractéristiques vraiment importantes à mettre en avant pour vous expliquer ce dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle tout d'abord des mondes persistants, c'est-à-dire qu'à l'inverse du jeu vidéo qu'on joue en solo sur sa console et avec lequel il a des liens de parenté ou un certain voisinage, mais le monde virtuel lui reste existe, continue à exister même lorsque l'utilisateur se déconnecte. C'est-à-dire que lorsque je reviens sur Second Life, lorsque je reviens dans World of Warcraft, après avoir fait un détour par la vie réelle, puisque ça a ses exigences aussi, eh bien, je retrouve un monde qui a changé. L'environnement dans lequel je vais me déplacer, je vais interagir, aura évolué parce que d'autres utilisateurs auront construit des choses, auront organisé un certain nombre de choses, et donc c'est ce qu'on désigne par l'idée de persistance. Il y a quelque chose qui est toujours là, même quand je n'y suis pas. Le plus souvent, et c'est un des aspects plus de la réalité virtuelle, on va se trouver confronté à des interfaces graphiques en trois dimensions. Je crois que c'est quelque chose qui a une grande efficacité pour nous plonger, nous immerger dans la réalité virtuelle. Je vous dirai un certain nombre de choses du commerce dans les mondes virtuels ou de l'avatar. À mon avis, la validité des choses que je vais vous dire à propos du commerce dans les mondes virtuels ou de l'utilisation des avatars reste tout à fait valable dans des interfaces en deux dimensions. Mais souvent, quand on parle de monde virtuel, on aura ce côté 3D. Une des choses qui a justifié notre intérêt, notre curiosité, ce qui nous a donné l'impression qu'il y avait vraiment un chantier à creuser avec la science, non seulement du droit, mais aussi les ressources de la philosophie, c'est l'existence et le développement de commerces portant sur des objets tout à fait inexistants à part dans l'infrastructure logicielle particulière. Il y a dans les mondes virtuels, dans Second Life, il y a une monnaie, une devise qui est propre à l'univers virtuel, une devise qu'on peut acheter et, plus surprenant encore, qu'on peut échanger contre des dollars, contre des euros. Donc il y a des flux importants d'argent qui circulent dans ces univers virtuels. Ensuite, troisième caractéristique, c'est l'existence d'avatars. J'en parle déjà depuis un certain temps comme si c'était quelque chose que nous connaissons tous. C'est un peu dire aussi l'état de pénétration de cette technologie dans le quotidien, parce qu'on y est déjà relativement habitué. Avatar, juste pour le signaler, le mot trouve ses origines dans la religion hindoue, ça désigne les incarnations du dieu Vishnu dans notre monde, et c'est en réalité le véhicule, le costume que l'utilisateur emprunte pour circuler, pour interagir dans un univers virtuel. Utilisateur qu'on désigne souvent sous le nom de typiste, hein, c'est le bonhomme qui tape les doigts sur le clavier pour diriger sa petite marionnette numérique. Et donc, dans la doctrine relative aux jeux vidéo ou au monde virtuel, c'est vraiment le terme qui désigne l'utilisateur, le typiste. Brève histoire, bref aperçu historique, pour peut-être signaler que ce qui est amusant à constater, c'est que tout ça naît vraiment de la littérature fantastique, naît vraiment aussi de la littérature de science-fiction. Qu'on peut avoir l'impression que finalement les personnes qui ont créé ces mondes virtuels l'ont fait au départ de leurs rêves, de leur imagination, de toutes les choses qui ont nourri leur lecture. Le Seigneur des Anneaux est une des références inévitables. La première étape de traduction de ces univers littéraires dans du code informatique a été des jeux de rôle textuels, c'est-à-dire que vous aviez sur l'écran de l'ordinateur des lignes de texte qui vous décrivaient une situation. Vous êtes un hobbit nommé Bilbo, vous vous trouvez à l'entrée d'une grande cave, il y a un arbre, et vous répondiez par texte, j'entre dans la caverne, etc. C'était ainsi que l'interaction se déroulait. L'étape suivante a été d'introduire du graphisme là-dedans et d'introduire quelque chose qui a été probablement un point révolutionnaire dans l'évolution des technologies, c'est la capacité pour les utilisateurs de créer des objets dans les mondes virtuels et de les doter de propriétés particulières. C'est-à-dire que je ne me balade plus simplement à partir de ce moment-là dans un univers que je visite un peu comme on visite un musée ou un parc d'attractions, mais j'ai la capacité, en utilisant les potentialités du logiciel, de créer des objets, de les doter de certaines propriétés, informatiques qui leur permettent d'interagir avec le monde virtuel, qui leur permettront d'interagir avec les autres utilisateurs. C'est la base de la possibilité de faire du commerce, évidemment. Si j'ai la possibilité de créer des objets, j'ai la possibilité de les vendre. Alors, un exemple d'objet, ce serait une tasse de café. Avec quelle programmation, quel code, c'est la possibilité pour l'avatar qui va utiliser cette tasse de café de jouer une animation, donc d'être représenté à l'écran comme étant occupé à boire une tasse de café, à être dans une situation de conversation. Alors, pour faire un saut sur aujourd'hui, et peut-être le futur proche de ces technologies, il y a des projets qui consisteraient à transformer ou à rendre en tout cas l'entièreté de la planète Terre sous forme de logiciels de réalité virtuelle. C'est un truc qui s'appelle Projet X. Pour le moment, ils ont numérisé ou reproduit une partie de New York, mais il paraît qu'ils avancent. Les projets ne sont pas encore publics, donc je n'ai pas encore vu à quoi ça ressemblait. Et c'est aussi une technologie qui est appelée à avoir un certain nombre de liens avec toutes les applications de réalité augmentée. La possibilité, lorsque vous visitez un endroit, d'avoir en fonction de votre géolocalisation, sur votre tablette, sur votre smartphone, des informations complémentaires relatives au lieu que vous visitez. Par exemple, visiter des ruines médiévales, c'est sympa. Avoir une reproduction en trois dimensions des lieux tels qu'ils se trouvaient à l'époque, voilà qui rend la visite beaucoup plus vivante, beaucoup plus animée. Quelques exemples que vous connaissez sans doute au moins de nom, si pas pour les avoir pratiqués. World of Warcraft, un des jeux en ligne les plus connus, qui rencontre le plus de succès, puisqu'ils ont plus de 11 millions d'abonnés aujourd'hui. Où le but que j'ai résumé sur ce slide de manière un tout petit peu caricaturale, c'est de mener des quêtes à la découverte de donjons, de cavernes. C'est un jeu de combat, un jeu d'alliance aussi, puisque c'est un jeu de rôle multijoueur. Un autre exemple que je mentionne, parce que j'y reviendrai après à propos de crises bancaires qui ont affecté cet univers, c'est un autre univers de jeu qui s'appelle EVE Online, où l'objectif pour les joueurs est d'incarner les membres de gangs de pirates de l'espace. Et vous verrez tout à l'heure que ce sont des gens qui ne sont vraiment pas tous recommandables, en tout cas, leurs avatars ne le sont pas. Et alors, Second Life, qui, au moment où on a commencé notre projet de recherche, a été particulièrement présent dans les médias, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, qui continue à se développer et qui constitue un élément particulier dans le paysage des univers virtuels, parce que c'est celui qui laissait le plus de liberté, de marge de création à ses utilisateurs. Dans un de leurs slogans, sur lequel ils sont revenus un peu par après, ils le présentaient comme un monde entièrement imaginé et créé par ses résidents. Vous voyez qu'on ne parle pas de joueurs, on parle d'habitants, de résidents, et c'est probablement Second Life qui a le plus, qui ressemble le plus à un Internet en trois dimensions. Finalement, Internet, c'est quoi? C'est des espaces de serveurs qui sont à votre disposition pour y héberger vos sites. Second Life, c'est la même chose, c'est une plateforme qui est à votre disposition pour y héberger votre monde en trois dimensions, quelle que soit l'utilisation que vous voulez en faire. Et je vais venir à quelques exemples d'utilisation de Second Life. Je pars de ma propre chapelle, je ne sais pas si je peux dire le mot chapelle à propos de l'ULB, mais enfin, c'est pas ça. Toujours est-il que la première utilisation dont je vais vous dire quelques mots, c'est celle de l'enseignement grâce à Second Life, par le biais de Second Life. C'est aujourd'hui, à ce qu'on lit beaucoup, une des applications les plus courantes et les plus prometteuses de la technologie des mondes virtuels, parce que ça permet de réunir un certain nombre de personnes à distance, ça permet de créer un sentiment de communauté, un sentiment d'engagement ensemble dans quelque chose de commun. Et puis pour un certain nombre d'apprentissages, ça permet la modélisation en trois dimensions d'objets, ce qui est très pratique si vous devez expliquer à vos étudiants un projet d'architecture, si vous devez partager avec vos étudiants la structure d'une molécule, que sais-je, c'est pas du tout mon domaine. Ou si vous voulez d'autres exemples plus proches de la pratique du droit, pour ce qui me concerne de plus près, ça a été un lieu dans lequel on a pu organiser des procès virtuels, donc mettre des étudiants en situation de plaidoirie grâce à Second Life. L'interface fonctionne par le clavier, mais est aussi équipée d'un chat vocal. Donc on peut parler directement et converser librement dans Second Life. Quelque chose, vous voyez que mon avatar a aussi connu bien des avatars. Une autre forme d'utilisation des mondes virtuels, c'est ce qui est revendiqué par certains chercheurs en communication comme une nouvelle forme de journalisme, ce qu'ils appellent le journalisme d'immersion, et qui consiste à vous donner une expérience beaucoup plus directe de la réalité comme on peut le faire dans les méthodes de presse écrite ou de moyens audiovisuels classiques, en vous plongeant dans ce qui se passe. Ici, c'est une visite du camp de Guantanamo, la prison américaine située à Cuba. Et quand votre avatar arrive sur place, au début de la visite, l'écran devient noir, comme si on vous avait appliqué un bandeau sur les yeux. Quand vous retrouvez l'image, votre avatar est vêtu de ce costume peu élégant et peut alors se balader dans une reproduction du camp. Et c'est vrai qu'en termes de prendre conscience d'apprentissage, c'est quelque chose d'assez efficace et qui est une des formes d'exploration de ces technologies de la réalité virtuelle. Cela dit, costume plus élégant, autre utilisation aussi des mondes virtuels, c'est, et ceci nous rapproche véritablement des réseaux sociaux, Facebook et choses comparables, c'est avant tout une plateforme de communication et donc une plateforme d'interaction sociale et des interactions sociales les plus variées en termes de rencontres, de discussions, d'échanges. J'ai mis le mot sortie entre guillemets parce que quand vos avatars sortent en boîte, vous ne bougez pas beaucoup de chez vous. Et pourtant, c'est une des activités qui, dans les moments les plus hype de Second Life, avait le plus de succès. Et vous aviez donc sur l'écran des reproductions de boîtes de nuit, des avatars qui se déhanchaient sauvagement, et puis des conversations extrêmement sérieuses qui se déroulaient dans le chat écrit. Voilà, on peut avoir des conversations les plus philosophiques, les plus juridiques, les plus pointues, alors que l'interaction était tout à fait en décalage par rapport à cette réalité-là. Et bizarrement, ça semblait extrêmement important pour les utilisateurs d'être dans cette situation de danser, de boire un verre, etc. Je me souviens avoir eu une réunion avec des avocats américains qui réfléchissaient à l'application du droit dans les mondes virtuels, après avoir été une vraie réunion. Je ne fais que des choses réelles. et en arrivant par téléportation dans le cabinet de ces avocats, la chose la plus importante au début de la conversation était, comme lors d'une rencontre finalement en réel, de s'extasier un peu sur la beauté des lieux, de féliciter les gens pour la décoration de leur cabinet, d'offrir à boire, etc. Et donc il y avait ces 10 minutes de choses tout à fait virtuelles, mais qui étaient nécessaires avant qu'on puisse arriver à des discussions plus sérieuses. Et j'utilise moi, l'expression société écran parce que c'est le plaisir de la détourner de son application habituelle dans le cadre du droit des entreprises, utilisation particulièrement habile des possibilités de créer des personnes morales pour dissimuler d'autres activités. Voilà, ici, une utilisation tout à fait différente du mot société écran, c'est vraiment pour désigner l'idée que sur les écrans des ordinateurs, c'est de la vie sociale dans toute sa complexité, toute sa variété qui se déroule. Et à partir du moment où il y a une véritable vie sociale, une véritable société, pour les gens qui étudient le droit, se pose la question donc de l'application du droit dans ces relations. J'en viens alors à la deuxième partie de mon intervention pour vous parler de responsabilité des propriétaires éditeurs des mondes virtuels autour de deux thèmes qui ont beaucoup agité les résidents de Second Life et d'autres mondes virtuels, à savoir une crise bancaire, plusieurs crises bancaires même, et puis des questions liées au commerce et à la difficulté de faire reconnaître le droit de propriété sur des objets qu'on achète et qu'on vend. Je ne sais pas dans quel argent, dans quelle devise vous placez vos économies. Sachez qu'il y a d'autres possibilités que celles que les banques classiques vous proposent. On peut épargner en Linden Dollar. Linden Dollar, c'est la devise dans Second Life. Le nom vient simplement du fait que la boîte qui a créé Second Life s'appelle Linden Lab. Et donc tous les employés de la société Linden Lab, dans Second Life, leurs avatars s'appellent prénom suivi de Linden. Quand vous rencontrez un Linden dans Second Life, vous savez que vous avez affaire à un avatar d'un employé. Et donc l'argent, le Linden Dollar. Dans World of Warcraft, on utilise de l'or, valeur refuge. Dans EVE Online, le jeu pirate de l'espace que j'ai évoqué, on utilise le crédit interstellaire. Il y a d'autres exemples encore. L'existence d'argent permet le commerce in-world, c'est-à-dire à l'intérieur de l'univers de Second Life et d'autres mondes virtuels. Mais également, et c'est quelque chose peut-être d'un peu plus curieux, d'un peu surprenant, en dehors des mondes virtuels. C'est-à-dire qu'on a pu trouver, par exemple, sur des plateformes comme eBay, à la vente aux enchères, des objets comme une épée, une armure virtuelle, des objets particulièrement, des équipements particulièrement utiles si votre personnage a besoin d'évoluer dans ses quêtes dans World of Warcraft, qui en dehors de la structure World of Warcraft n'offre pas beaucoup d'utilité. Et cependant, ce sont des choses qui ont pu se vendre à des prix impressionnants. Je vais revenir avec deux exemples et je vous dirai ensuite alors ce qu'il est advenu de quelques banques ou des institutions qui s'auto-dénommaient banques dans Second Life et dans EVE Online. Le commerce virtuel avec deux objets de vente récentes qui ont rapporté beaucoup d'argent aux vendeurs. Tout d'abord, je ne sais pas si vous connaissez la planète Calypso. Je n'y ai jamais été parce que ce n'est pas le monde virtuel que je fréquente. On est dans un jeu de rôle en ligne qui s'appelle Entropia Universe, l'acronyme MMORPG. C'est pour un jeu de rôle en ligne massivement multi, un joueur en anglais. Et sur cette planète Calypso, un complexe immobilier avec hôtel, avec appartement à louer, avec boîte de nuit, avec restaurant, etc., s'est vendu pour la somme de 350 000 dollars à la fin de l'année passée. Et la personne qui a acheté ce complexe immobilier sur cette planète, qui en fait n'est pas du tout lointaine, le voyait comme un investissement. Parce que la gestion de ce complexe immobilier virtuel, estimé l'acheteur, va lui rapporter de quoi rentabiliser cet investissement. On parle de lignes de code informatique qui ne sont pas autrement visualisables que par le logiciel client de Entropia Universe. Hein, pour bien rappeler qu'on n'est pas vraiment dans l'espace, dans cette belle station spatiale. Deuxième exemple, et on est à nouveau dans le registre des jeux de rôle en ligne, c'est un étalon céleste, hein, vous en avez là une représentation. qui a été mis en vente par l'éditeur de World of Warcraft, la société Blizzard, au coût de $25 la pièce. Il y a eu très très vite plus de 90 000 candidats acheteurs. Je n'ai pas pu vérifier combien d'étalons célestes Blizzard a réellement vendu ou combien ils mettaient réellement en vente. En tout cas, quand l'objet a été mis à la disposition des joueurs, il a suscité l'intérêt de très nombreuses personnes. Alors, imaginez un peu la situation de rêve si vous êtes vendeur. Vous passez un certain temps à dessiner votre étalon céleste, mais le reproduire dans un exemplaire qui se vend à $25 la pièce, ça ne vous coûte rien, puisque c'est entièrement numérique, en fait, c'est une décode à reproduire. Donc, il y a quelque chose qui, pour la société propriétaire du monde virtuel, est une manière de faire un commerce assez florissant.
En 2005, Second Life était la 77e économie mondiale.
Oui. Oui, il y a un autre exemple qu'on cite.
77e niveau mondial en produit intérieur brut comparé finalement avec l'économie.
Tout à fait. Et il y a le cas qu'on cite souvent qui est celui de Han Shih-Chung, qui a fait la une de plusieurs magazines internationaux, qui est Han Shih-Chung, c'est l'avatar qui a gagné plus d'un million de dollars, donc je te parle de dollars américains, pas de London dollars, comment ? En faisant de la spéculation immobilière dans Second Life, en achetant des terrains, en les lotissant, en les revendant, en construisant, en louant maisons, appartements, donc il y a vraiment quelque chose d'énorme en termes de d'intérêt financier dans ce commerce virtuel. Là où ça devient un peu plus délicat, c'est quand on arrive à la question, est-ce que je suis propriétaire de cette station spatiale pour laquelle j'ai payé, c'est pas moi, j'ai payé $350 000. Alors, vous avez un texte ici au-dessus, je ne sais pas si vous arrivez à le lire.
Non.
Alors, ce texte dit, et moi-même j'y arrive difficilement, il faudrait lire dans le détail chacune des phrases des conditions générales d'utilisation ou des terms of services des contrats liés à des logiciels et liés en particulier au monde virtuel, même s'ils sont écrits en petits caractères. C'est ici qu'on arrive aux fameuses conditions générales, qu'on arrive aux fameux fine prints ou petits caractères des contrats. Parce que ces contrats présentent deux caractéristiques, et je vais un peu vite ici. D'une part, c'est qu'ils sont rarement lus et jamais négociés. Donc, c'est tout le contraire de l'idée d'une convention, d'un accord. Première caractéristique. Cependant, on les accepte. Quand on installe un logiciel, etc., on les clique, accepte. Et on est, en théorie du moins, directement lié par la convention. Deuxième caractéristique, c'est que ces contrats sont déséquilibrés. Ils sont vraiment rédigés dans l'objectif de mettre l'éditeur, le propriétaire du jeu, du monde virtuel, à l'abri de tout risque de responsabilité, de tout risque juridique. Il y a eu, une petite anecdote, un chercheur américain qui a tenu pendant quelques années un blog qui s'appelait Virtual Law, qui était une excellente source d'informations sur l'évolution du droit dans les mondes virtuels. Et ce blog, il y a mis fin en 2008 en disant, voilà, je me suis beaucoup amusé, mais maintenant mon congé sabbatique est terminé, je dois reprendre mon boulot dans une firme d'avocats, et je vais à présent rédiger des licences d'utilisateurs pour une firme. Et il a fait un dernier commentaire qui disait, c'est vraiment horrible pour les joueurs, je suis désolé. Pour des raisons de secret professionnel et de pratique professionnelle, il n'a plus animé ce blog, mais visiblement, toute sa passion en tant qu'explorateur des mondes virtuels souffrait un peu de devoir rédiger ces fameux contrats d'utilisateurs finaux, ces licences d'utilisateurs.
Oui, j'en suis peut-être, mais normalement, si vous venez aux grands principes généraux du droit, dès qu'il y a accord sur le prix et sur la chose, il y a le transfert de la propriété et de l'autre transfert des risques. Donc,
oui.
Suis-je propriétaire de bien virtuel s'il y a eu un accord qui, à un moment donné, n'est plus virtuel, puisqu'il s'est transformé par un achat de commerce,
oui.
Il y a une le transfert de la propriété est fait.
Oui, tout à fait. Sauf si, avant cela, il y a une étape contractuelle antérieure dans laquelle vous reconnaissez que vous n'êtes pas propriétaire des choses. Et c'est ce que disent ces contrats. Alors que Second Life a par exemple fait sa publicité pendant très longtemps sur le fait que les utilisateurs étaient propriétaires des terrains qu'ils achetaient, que ça ressemble vraiment à la vente. Dans Second Life, propriétaires des objets qu'ils créaient et qu'ils vendaient, eh bien, les contrats d'utilisateur, les licences d'utilisation, aujourd'hui précisent que vous n'avez que des droits temporaires d'utilisation, que ces objets ne vous sont en aucune manière garantis par l'éditeur. Et c'est ici, le problème est assez... vous anticipez, mais c'est pas grave, c'est très bien. Je préfère discuter que parler tout seul. Imaginez que vous avez lancé ce logiciel sur une inspiration, Second Life, et que tout d'un coup, il y a des millions de personnes qui l'utilisent. Si ils sont propriétaires de choses comme une station spatiale qui vaut 350 000 dollars et qu'il y a un bug dans votre software, est-ce que vous êtes tenu d'indemniser les 350 000 dollars, la perte, la disparition du commerce? On peut comprendre aussi le point de vue de l'éditeur qui dit, bon, j'ai quand même une boîte à... il faut que j'en assure la viabilité, quoi. Donc c'est ça. C'est ça qui est derrière, et ce qui est en tout cas certain, c'est qu'en l'état actuel, au niveau du droit contractuel, il y a un réel déséquilibre. C'est ce qui m'amène au terme de féodalité, sur lequel je vais revenir dans un instant. Par contre, ça c'est pour le droit civil, au niveau du droit pénal, on a très peu de jurisprudence sur ces choses. C'est des choses qui débutent, et en général, dès qu'il y a un début de procès, les firmes préfèrent conclure des transactions pour qu'il n'y ait pas de choses qui viennent à l'état jurisprudentiel ou qui viennent à l'état de certitude juridique. Mais on a deux, trois affaires, dont une affaire en Hollande, où le vol d'objets virtuels a été sanctionné comme étant tout simplement du vol, ou plus précisément du racket. De quoi parle-t-on dans cette affaire? On parle d'une amulette magique et d'un casque dont la matière, en tout cas la matière virtuelle, m'échappe à l'instant. C'était des objets utiles dans un jeu qui s'appelle Runescape, et trois jeunes ados qui jouaient à ce jeu s'étaient disputés, et deux d'entre eux avaient menacé et violenté le troisième jusqu'au moment où il accepte de leur céder, donc que son personnage cède à leur personnage cette amulette magique et ce casque dont la matière ne me revient décidément pas, enfin qui était très utile pour les personnages des joueurs. Voilà du racket, comme il peut y avoir dans les cours d'école, hein. Donne-moi ton GSM ou je te casse la figure. Voilà, donne-moi ton amulette magique ou je te casse la figure. Le juge hollandais, tant en première instance qu'en appel, a simplement, avec un certain bon sens, dit, ben voilà, ça c'est du vol, il y a une valeur, il y a un objet qui est approprié, donc on est face à quelque chose que je peux qualifier de vol. Et les deux racketteurs ont été condamnés à un certain nombre d'heures de travaux d'intérêt général, si je me souviens bien. Le jugement, si vous voulez le lire, est disponible sur le site du centre Perelman, philodroit.be, dans sa version originale et dans une traduction en français. L'avantage d'être à l'université, c'est qu'on a des étudiants qui sont une force de travail exploitable à volonté.
Ça, c'est la vraie féodalité.
Voilà.
Mais tu appartiens à qui?
Ah, c'est du domaine public, hein, tout ça.
La force de travail des étudiants.
Voilà. Bonne question. On fera un autre séminaire, une autre fois. Alors, crise bancaire virtuelle, disparition cependant de sommes extrêmement importantes. Dans Second Life, on a vu apparaître une banque qui se présentait telle, qui s'appelait Ginko, et qui promettait des taux rémunérateurs de l'épargne extrêmement importants. Mais qui ne fonctionnait que par les apports nombreux de nouveaux épargnants. Ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi, quelque chose de très classique, une escroquerie les plus habituelles, ben voilà, ça fonctionne aussi.
C'est le Madoff virtuel.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Ça s'est passé dans les univers virtuels un peu avant que ça n'arrive dans le monde réel. Alors, je vous explique d'abord ce qui s'est passé dans EVE Online. C'est la même idée, hein, dans ce monde de pirates de l'espace. Un des joueurs a un jour ouvert une banque. Il promettait aussi des taux rémunérateurs de l'épargne assez intéressants. Les gens lui ont confié leurs économies, les joueurs confient leurs économies. Attention que ça peut être des économies réelles, hein, puisque si vous avez dans un monde virtuel des institutions bancaires qui promettent plus comme taux de rémunération que ce que vous avez dans les banques réelles, ben vous pouvez prendre vos économies de chez Dexia et les déposer dans les banques de EVE Online, dans les banques de Second Life. C'était peut-être pas très prudent, mais un certain nombre de personnes l'ont fait, et parfois pour des sommes assez substantielles. Dans EVE Online, au bout d'un certain temps, quand le gestionnaire de la banque a estimé avoir suffisamment d'argent, il a fermé l'établissement en mettant un petit mot sur la porte. Chers amis, merci. Je vous rappelle que nous sommes dans un monde de pirates, et donc en tant que pirate, je pars avec votre argent. 125 000 euros. Hein, des fraudes. Ça s'est produit de manière répétée. Et un des exemples, c'était quand même quelqu'un qui s'est fait un butin de 125 000 euros en crédit interstellaire. Enfin, on peut sortir les crédits interstellaires du monde virtuel. Réaction très différente de la part de Linden Lab, donc l'éditeur de Second Life, et de la part de la société propriétaire de EVE Online. Linden Lab a adapté ses conditions générales d'utilisation, c'est vraiment l'outil de législation dans les mondes virtuels, en disant dorénavant, pour éviter les problèmes, on n'acceptera plus comme institution bancaire dans Second Life que les banques qui ont une assise dans le monde réel, qui sont régulées, sont contrôlées sous l'angle des législations bancaires dans le monde réel. Dans EVE Online, les éditeurs, les propriétaires ont une attitude très très différente de dire aux joueurs, écoutez, que voulez-vous ? C'est un jeu de pirates ici. Vous vous êtes fait avoir, mais c'est normal. C'est les règles du jeu. Et ça s'est produit de manière répétée. Il y a eu plusieurs scandales bancaires similaires et leur attitude a été relativement constante, avec le bémol, disent-ils, que si le pirate, l'escroc, essaye de sortir ses bénéfices du monde virtuel, à ce moment-là, il y aurait une violation des clauses contractuelles qui interdisent. Mais l'effectivité de cette interdiction est vraiment incertaine, qui interdisent de sortir le profit du monde virtuel. Cela dit, en pratique, on parvient toujours à commercer et à revendre des devises virtuelles contre de l'argent réel. Donc leur explication est un peu formée. La différence entre les deux, et c'est ce que le cercle veut évoquer, c'est que d'un côté, on est dans une plateforme ouverte qui sert à toutes les formes d'interaction. Dans l'autre cas, on est dans un jeu. Et le cercle, c'est ce qui est dans la doctrine, a été appelé le cercle magique. C'est un cercle tout à fait imaginaire, bien entendu, mais qui constitue une sorte d'enceinte sacrée autour des univers uniquement ludiques, uniquement autour des mondes de jeu, qui protège contre l'irruption des règles réelles. C'est quelque chose qui peut paraître un peu surprenant par rapport au cas de fraude bancaire. C'est quelque chose qu'on comprend très très bien si on songe à la pratique d'un sport. Il y a des situations où il est parfaitement légitime et même chaudement recommandé d'envoyer votre poing dans la figure de votre adversaire. Si dans un match de boxe, ce comportement ne sera pas constitutif d'un dommage pouvant générer responsabilité pénale ou responsabilité civile. Et donc l'idée de cette théorie du cercle magique, c'est que les univers de jeu, puisque c'est du jeu, et c'est ce que rappellent les éditeurs de EVE Online, puisque c'est du jeu, il n'est pas question de venir appliquer des règles autres que les règles du jeu. Par contre, sur quelque chose qui est une plateforme ouverte comme Second Life, le droit, en toute sa richesse et sa variété, a vocation à s'appliquer entièrement. Alors, vous voyez que par le biais du contrat, c'est vraiment l'éditeur, le propriétaire du jeu qui est un souverain, si pas directement divin, en tout cas de droit absolu. C'est une image ici qui est assez amusante parce qu'elle a été une peinture numérique qui a été réalisée par un collègue de l'Université libre de Bruxelles, qui est quelqu'un qui travaille dans la cellule de pédagogie au service de l'enseignement. C'est avec son aide qu'on a pu monter notre séminaire virtuel. Et à force de fréquenter nos séminaires, il s'est pris au jeu de Second Life. Et depuis, il est un peintre assez connu, un artiste assez apprécié dans Second Life. Il réalise régulièrement des expositions de ses œuvres dans Second Life. Et apparemment, il en a imprimé certaines qui sont maintenant en exposition réelle dans une des salles de l'université. Mais vous voyez donc une certaine disproportion sur l'image entre le monstre éditeur, propriétaire du monde virtuel et l'utilisateur relativement démuni. L'éditeur se trouve en effet dans une situation de toute puissance puisqu'il suffit de changer quelques lignes de code pour faire disparaître tous les biens virtuels, quelle que soit leur valeur, pour faire disparaître un avatar, pour modifier les propriétés d'un certain nombre de biens. Il y a une sorte de maîtrise technique qui est liée à la nature du logiciel, tout simplement. Donc cette toute puissance est une toute puissance qui est d'ordre technologique, mais qui peut avoir, il y a beaucoup d'anecdotes autour de ça, des répercussions importantes pour les joueurs et leur possession. Et c'est également quelqu'un qui est en situation de savoir absolu. On est dans un monde de surveillance complète, puisque toutes vos activités sont enregistrées dans les logs du logiciel, puisque le propriétaire éditeur de monde virtuel connaît l'identité des typistes, pas seulement les avatars, etc. C'est vraiment une situation de déséquilibre, et il y a sans doute un travail juridique qui va être qui est le chantier des années à venir et des temps à venir, c'est de passer de l'État comme ça de féodalité où vous ne tirez vos pouvoirs que de la bienveillance du souverain droit divin à une situation où les droits sont reconnus, sont clarifiés. C'est vraiment un parallèle très facile à faire entre les révolutions modernes dans le monde réel et les débats qui agitent les communautés virtuelles. La reconnaissance des droits fondamentaux, vie privée, liberté d'expression, propriété privée, et faire évoluer les conditions générales d'utilisation vers des choses plus équilibrées. Il y a toutes sortes de propositions législatives en ce sens. C'est quelque chose qui commence, qui débute et qui est à venir, sans doute. Alors, l'avatar est-il responsable ? Oui. Sous deux aspects possibles que j'ai évoqués tout à l'heure. Tout d'abord, un avatar, ça n'a pas d'existence indépendante, c'est nécessairement l'expression d'une personnalité, d'un individu. Et donc, en tant que tel, il y a un agent, une personne physique qui anime le pantin numérique et qui est responsable de ses actions. Il y a, bien entendu, des difficultés techniques quant à l'identification de la personne derrière l'avatar pour pouvoir envisager une action en justice contre le propriétaire d'un avatar qui vous aurait d'une manière ou d'une autre causé un tort. Vous aurez besoin de pouvoir identifier la personne, et donc il y a une collaboration nécessaire de l'éditeur de monde virtuel. Au niveau juridique, c'est quelque chose qui n'est pas du tout surprenant. Ça ressemble très très fort à ce qui existe par rapport aux fournisseurs d'accès à Internet, par rapport à la responsabilité, aux limitations de responsabilité des hébergeurs dans la société de l'information. Donc on est sur ce niveau-là, sur finalement de l'adaptation à une technologie qui a évolué, mais de règles qui ont déjà été mises en place pour la société de l'information la plus traditionnelle, la plus classique, puisqu'on peut aujourd'hui parler d'un vieux droit de l'Internet, un droit classique de l'Internet qu'il faut maintenant mettre à jour au vu des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies. Deuxième piste, ce serait de dire, mais finalement, cette chose qui se balade dans les mondes virtuels et qui, bon, pour mon avatar, comme c'est un avatar un peu sérieux dans le cadre d'une profession très sérieuse, il a une allure relativement décente. Enfin, je vous avoue que dans Second Life, j'ai déjà eu des conversations très intéressantes avec des gros nounours ou des canettes de coca. Et ça n'empêchait pas la qualité de la conversation. Et donc l'idée est de se dire peut-être qu'il y a là quelque chose qu'on pourrait ériger en personnalité morale, qui serait alors titulaire de droits propres, comme exactement les ASBL ou les entreprises aujourd'hui. Et un certain nombre de propositions doctrinales développent cette piste de manière qui me paraît tout à fait légitime et crédible, qui est aussi un des chantiers en cours et à explorer dans les temps. Voilà. Alors, je vous propose de m'arrêter là. J'ai été un peu plus vite pour essayer de rattraper le retard. Voilà, et puis vous voyez que mon avatar est fatigué et a à présent d'autres préoccupations. Donc je vais m'arrêter là. Je suis bien entendu, après le second exposé, tout à fait à votre disposition pour répondre à vos questions, vos interpellations, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Pierre-François. Je propose qu'on cède tout de suite la parole à Jean-Michel. C'est d'accord, Jean-Michel. Et comme ça, on pourra avoir un peu ton éclairage par rapport à ce qui s'est dit et peut-être à propos d'autres éléments que tu voudrais ajouter par rapport à ces questions. On prendra après une pause et puis on entrera vraiment dans le débat avec Pierre-François et Jean-Michel et tout le monde.
Bon, idéalement, si j'avais eu ne serait-ce que 5 minutes peut-être de l'ordre.
Ah ben on peut peut-être
poser le nom, mais non, je peux passer comme ça. Moi, je pense que je suis exactement comme vous, c'est-à-dire à la fois déconcerté, perplexe, dubitatif, peut-être un peu amusé même par l'exposé qui nous est fait, qui est des paysans. J'aurais quelques remarques à faire qui sont un peu en liaison évidemment avec l'approche philosophique de ces questions. C'est que on s'aperçoit bien, à écouter Pierre-François, que la notion de virtuel, elle a manifestement changé avec nos technologies. Traditionnellement, le virtuel, c'était moins que le réel. Quand Aristote parle de virtuel, hein, il en parle comme de la puissance par rapport à l'acte. Il y a des choses qui sont en puissance et qui vont trouver la force de passer à l'acte et de devenir réel. Hein, mais il y a moins de réalité dans la virtualité que dans l'acte. Or, on s'aperçoit, à écouter Pierre-François et à se affronter les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, que virtualiser, c'est en réalité potentialiser. Là, dans le cas qui nous est exposé, la réalité est moins que la virtualité. La virtualité offre davantage, enfin, est censée offrir davantage de possibilités que la réalité. Je suis moche dans le réel et je peux être beau dans le virtuel. Je suis pauvre dans le réel, je peux être riche dans le virtuel. Il y a des choses que je ne peux pas faire dans le réel parce que j'ai des limites corporelles. Dans le virtuel, je n'en ai plus. Donc, aujourd'hui, la représentation qu'on se fait du virtuel est une représentation éminemment positive. La virtualité, c'est l'extension des possibilités. Ce qu'on appelle la potentialité, la potentialisation. C'est important, je crois, parce que ça en dit long sur l'attitude que nous avons de plus en plus à l'égard de la réalité qui, par définition, doit nous décevoir. Il faut qu'on soit dans une posture de déception à l'égard de la réalité pour pouvoir accueillir la virtualité comme une chance. A contrario, si nous étions réconciliés avec la réalité, nous n'aurions que faire de la virtualité. Donc ça me paraît important de le dire. L'autre remarque parfaitement corollaire, c'est que dans le monde qui nous est présenté, le corps, la chair, la caresse n'ont pas cours, bien évidemment. On est dans un univers qui se satisfait parfaitement d'avoir éliminé le biologique en l'homme. C'est important. Et c'est peut-être pas pour rien que ce sont des juristes peuvent y trouver leur compte. Parce que par définition, les juristes se satisfont parfaitement de l'abstraction. Et donc c'est pas tout à fait par hasard, sans doute. Les juristes investissent volontiers ce monde-là. Ils y sont parfaitement à l'aise. Parce que donc leur représentation de l'homme, des relations et parfaitement déconnecté du biologique. Donc je crois que c'est un aspect aussi important et qui peut donner à penser. Parmi les remarques que je voulais faire également, bon, il y en avait une concernant la monnaie, donc vous voyez, c'est un peu décousu ce que je dis, mais Là aussi, rien de tout à fait étonnant à ce que la monnaie trouve son espace dans la virtualité. Parce que bon, la monnaie, elle est d'emblée déjà virtuelle. Elle est le tenant lieu d'une réalité, la monnaie. Donc là, elle est naturellement à son aise. Cela étant, cette généralisation de la monnaie, le fait que ce monde-là est essentiellement basé sur l'échange de la monnaie en dit également long sur notre attitude à l'égard de la réalité. C'est-à-dire que la monnaie, elle instaure un espace d'interchangeabilité généralisé. Donc, elle homogénéise du coup une communauté, la communauté virtuelle. Elle est solidarisée par la monnaie et uniquement par la monnaie. C'est ça qui tient les avatars les uns avec les autres. Ce monde-là est complètement réfractaire au don sans réciprocité. Il faut expliquer comment c'est possible. Mais l'idée qu'on puisse vouloir subvertir la monnaie par un autre type de lien, bon, reste éminemment problématique. Donc je vais aller aussi du côté de la relation de responsabilité qui nous intéresse. S'il fallait se donner une représentation de la responsabilité dans ce monde, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire dans la discussion, je pense, il faudrait dire que elle est problématique, parce que la responsabilité, c'est une relation asymétrique. C'est une relation asymétrique. Je réponds de quelque chose par rapport à quelque chose. Je suis dans une relation toujours d'asymétrie. Je prenais l'exemple hier, pardonnez-moi de le rappeler, de l'œuvre de Hans Jonas, qui dit bon, la responsabilité par rapport à la nature, s'il fallait se la représenter, il faudrait dire qu'elle est un petit peu celle des parents à l'égard du nourrisson. Je suis responsable d'un nourrisson qui n'est en rien responsable par rapport à moi. Je suis dans une relation complètement asymétrique. Et cette responsabilité, elle appelle une attitude de protection. C'est avec cela qu'il faudrait renouer. Donc en ce sens, la notion de responsabilité prise dans ce sens-là, elle est réfractaire au juridique. Elle n'est pas synalagmatique, comme disent les juristes. Et ça me paraît important de le dire. Donc fonder un monde uniquement sur la relation monétaire, faire en sorte que l'échange se fasse par le lingdom ou par autre chose, ça rend la question de la responsabilité extrêmement problématique, au sens donc où je suis responsable de quelque chose face à des gens qui, eux, sont dans une situation d'attente, de protection par rapport à moi. Ce qui me conduit également à dire que si, comme vous l'avez dit, l'éditeur du monde virtuel est un souverain de droit divin, de quasiment de droit divin, il est évidemment irresponsable. La caractéristique d'un souverain, c'est qu'il est irresponsable. Il n'a de compte à rendre qu'à lui-même. Il est dans une situation donc, où il est à lui-même son autorité. Donc, on est bien dans un monde qui érige l'irresponsabilité en idéal. C'est très important, je pense, de le dire. Bon, par ailleurs, c'est des choses qu'on a un petit peu évoquées hier, toute responsabilité suppose des limites. Toute responsabilité suppose des frontières. Ce sont les frontières qui structurent l'espace d'une responsabilité et qui permet l'assignation et l'imputation d'une action. Je disais hier, pour être responsable, il faut être assuré de son identité et avoir donc une identité qui constitue une espèce de centre de gravité. Or là, on voit bien que la virtualisation est par définition réfractaire à la limite et à la frontière. Donc je vois mal comment on pourra longtemps couvrir la notion de responsabilité avec des mondes virtuels. Et bon, extrêmement intéressant, mais là où il était le plus décevant, c'est quand vous avez essayé de répondre à la question « l'avatar est-il responsable ?» Hein, on s'est aperçu que c'était quand même extrêmement maigre. Là, bon, il est responsable, lui, comme tout un chacun, c'est une personnalité morale, etc. Mais c'est extrêmement peu eu égard aux possibles qui se sont ouverts à l'avatar. On aurait pu se dire, bon, et là, il y a un chantier extraordinaire pour les juristes qui vont travailler une notion de responsabilité dans un contexte potentialisé. Or là, on s'aperçoit que quand on essaie de répondre à la question de la responsabilité de l'avatar, c'est en le repliant sur la responsabilité la plus basique du monde réel. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu décevant et qui, bon, me suggère que, au fond, cette notion de responsabilité, on est tout prêt, y compris chez les juristes, à s'en débarrasser sans trop de problèmes. C'est peut-être ça, d'ailleurs, cette dissidence de l'opinion. Bon, voilà, donc je ne dis pas des choses bouleversantes, parce que j'aurais plein d'autres choses à dire, par exemple sur le... on parlera tout à l'heure sur le lien avec la science-fiction, parce que c'est très important de voir que des juristes sérieux adhèrent, s'adossent à un univers de science-fiction. C'est une espèce d'infantilisation généralisée de nos sociétés. C'est là également. Et puis, là, c'est la question la plus générale peut-être qu'il faudrait poser. D'où vient cette espèce de propension à vouloir vivre par procuration dans des mondes virtuels qu'est-ce que ça peut induire à terme sur des utilisateurs qui optent au fond pour un univers de la déréalisation, puisque c'est quand même de cela qu'il s'agit fondamentalement. Bon, vous voyez, il y a des questions qui sont à la fois métaphysiques, morale, et puis d'ordre éthique, je distingue bien le moral et l'éthique, c'est-à-dire c'est la question éternelle du vivre ensemble et du bien vivre ensemble que peut soulever celle du recours à des Second Life ou à d'autres univers. Donc,
l'alcool, voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Peut-être Pierre-François ou This Writer, tu veux peut-être réagir à chaud sur certaines des observations de Jean-Michel, et puis alors on passera à une petite pause.
Oui, certainement. Alors, opinion dissidente, c'est pas une question de déresponsabilisation, de renoncer définitivement à la responsabilité, pour commencer par ça. L'opinion dissidente dans la technique des juridictions, c'est la possibilité pour les juges, quand on est dans une collégialité de magistrats, de joindre à un arrêt avec lequel ils ne sont pas d'accord leur opinion sur ce qu'aurait dû être la décision. Donc, la majorité des juges votent une décision. 2 ou 3 sur les 7, par exemple, à la Cour européenne des droits de l'homme, ça se pratique aussi à la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, donnent leur vision du monde, leur vision du droit sur cette affaire-là. Et donc, opinion dissidente, c'est une technique qui permet de faire coexister la minorité avec la majorité. C'est une manière de ne pas... Il faut prendre des décisions, pratiquement, mais on n'élimine pas la minorité. Donc c'est plutôt une idée de pluralisme dans le droit de la liberté d'expression que de renoncer à la responsabilité. Voilà pour l'origine.
C'est pas très subversif.
C'est pas subversif en tout. Pas nécessairement. Non, ce n'est pas...
Il y en a qui auraient pu s'en servir récemment. Non. Enfin, qu'ils sont fortes. Je rigole. Oui.
Ça peut servir très souvent. Alors, ça n'existe pas en droit belge, ça existe à la Cour européenne des droits de l'homme. La juge belge à la Cour européenne des droits de l'homme en a fait de très belles utilisations parfois, mais c'est un autre sujet. Alors, la responsabilité de l'avatar, c'est effectivement le point qui me déçoit aussi dans mon exposé, parce que, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour des questions de renonciation à la responsabilité, mais peut-être pour le moment, c'est un moment où le droit désenchante les mondes virtuels. On renonce un peu à toute la fascination qu'on peut avoir pour l'efficacité de la technologie 3D, et puis on se dit, oui, mais là je dois trouver un coupable. où je dois trouver une personne contre qui faire mon recours en responsabilité civile. Et j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un sujet de droit. J'ai besoin d'une personne reconnue par le droit. Et là, il y a deux catégories de personnes reconnues par le droit, les personnes physiques et les personnes morales. Et donc, je dois parvenir à franchir le masque, le costume de l'avatar pour retrouver l'individu personne physique. C'est la responsabilité du typiste, hein, de la personne qui manipule l'avatar. Ou bien alors, je dois ériger, mais ça passera par une action législative, je dois ériger l'avatar en personne morale, de la même manière que pour créer une ASBL, pour créer une entreprise, vous devez déposer des statuts, vous devez faire un certain nombre de formalités, ce n'est que le droit. Donc là, il y a une question qui est plus la technique juridique de reconnaître un sujet de droit, mais c'est vrai que c'est le moment où on arrête un peu de rêver, on remet les pieds sur terre, et c'est vrai que c'est moins enchanteur.
Et on n'est pas très prospectif non plus, parce que bon, on aurait pu vouloir élaborer un droit autour de l'identité numérique.
Tout à fait. Alors là, il y a deux choses à dire. C'est que dire l'avatar est une personne morale, ça surprend déjà pas mal de juristes. Ou ça pourrait, c'est quelque chose déjà qui est, c'est pas subversif, mais c'est prospectif en tout cas en droit. Il y a eu des expériences au moment où Second Life était particulièrement bouillonnant. De créer des institutions de droit propres au monde virtuel. Et donc, il y a des gens qui ont réfléchi à une constitution, à des institutions de justice, à créer une sorte de droit façon common law. Hein. Ça n'a pas abouti disons que d'une part, je crois que la socialité dans le monde virtuel n'a pas été jusque-là, l'expérience n'a pas été là, et ça dit aussi que le détachement avec le réel n'est pas si fort que ça. Et quand vous évoquez l'idée de vivre par procuration, de se détacher du corps, d'avoir un corps complètement fantasmé, complètement différent, c'est vrai que c'est des choses qui existent dans la pratique des mondes virtuels, mais cette technologie du virtuel, elle peut aussi être utilisée de manière à peut-être augmenter le potentiel réel. Je pense par exemple à nouveau des situations d'éducation ou d'entraînement. Les technologies du virtuel vont être utilisées par exemple pour apprendre à des pompiers à intervenir dans des situations d'incendie avant de passer des entraînements en situation réelle. Ça peut déjà être de l'éducation de réflexe.
Ça existe pour les pilotes de ligne.
Oui, c'est ça.
C'est le game
il faut. C'est le service game. Tout à fait.
Et vous parleriez d'éducation pour ça ?
Pas de la symétrie, bien sûr.
C'est une
instruction.
La formation.
C'est de l'éducation, c'est de l'enseignement, c'est de l'apprentissage en situation. Deuxième chose, c'est que c'est aussi une technologie qui est utilisée par rapport à dans des cas de thérapie psychologique. Apprendre à des gens à faire face à leur phobie. Eh bien, c'est des gens qui ont peur de la foule, qui ont peur de certaines situations, c'est sur le même mécanisme psychologique, j'imagine, que l'entraînement ou la formation, c'est les habituer petit à petit à un certain nombre de situations. Ensuite, même simplement dans le fait de s'évader dans un corps différent, de pouvoir s'envoler, c'est vrai que les premières fois où Obdis Writer s'est envolé dans les cieux pour survoler des mondes merveilleux, j'ai passé une après-midi de travail extrêmement agréable. Pour des personnes qui souffrent d'un handicap et qui sont privées de toute mobilité, il y a un réel bien-être qui provient de la possibilité d'une... Alors c'est une mobilité qui est pas réelle, qui n'est pas la même que si leur corps leur permettait de faire tout ce qu'ils ont envie, mais qui produit un réel bien-être psychologique. Et je pense que dans une réflexion sur ce que deviennent ou que sont ces technologies du virtuel, il faut prendre en compte aussi ce genre de choses, qui a, à mon avis, des bénéfices réels.
Et les phénomènes d'addiction
les sources d'infos que je suis... Les sources d'infos que je suis se disent non convaincus par les études relatives à l'addiction sur le monde des jeux vidéo. Et voilà, moi j'ai pas mené d'études, oui, j'ai pas creusé complètement la question.
C'est pas une addiction de même nature que l'alcool ou la drogue, c'est évident. Mais il y a quand même une addiction nouvelle, enfin, qui est gérée par des thérapeutes nouveaux aussi.
Oui, c'est une question. question de marché, tout simplement. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une crise, en fait. Voilà.
On va parler sur en ce qui concerne.
On va pas rentrer dans le débat maintenant. Je propose qu'on fasse une petite pause.
Petite pause
d'un quart d'heure. Juste
bonne pour discussion.
Voilà, on rentre dans la discussion. Mais alors, juste pour ceux qui sont nouveaux ici, et je sais qu'il y en a qui ont des objectifs particuliers, on a un tableau ici. Donc vous pouvez venir me voir ou directement écrire sur le tableau là où les questions vous voudriez vraiment qu'on aborde. De manière à ce que par après, on va essayer de structurer autant que possible la discussion pour regrouper certaines des questions pour autant qu'on en ait.